Chapitre 12. Elle se cassera, dit Stelio. L'actrice avait voulu porter à la main le don du verrier sans le protéger par une enveloppe comme on porte une fleur. Bon, je vais ôter mon gant. Elle posa la coupe sur la margelle du puits qui était au milieu de l'enclos sacré. La rouille de la poulie, la façade fruste de la basilique avec ses vestiges byzantins, la brique rouge du campanile, l'or de la paille mise en meule de l'autre côté du mur, et le bronze des hauts lauriers et le visage des femmes qui enfilaient des verroteries sur le seuil des portes, et les herbes, les nuages et toutes les apparences d'alentour modifiaient la sensibilité du vert lumineux. Dans sa couleur se fondirent toutes les couleurs, et il parut vivre d'une vie multiple en son exiguïté comme l'iris animal où se reflète l'univers. Imaginez quelle somme d'expérience il a fallu pour produire cette chose belle, dit le poète étonné. Toutes les générations de Seguso, durant une suite de siècles, ont concouru par le souffle et par le toucher à la nativité de cette créature, dans le moment heureux où il fut donné à ce petit verrier inconscient de suivre l'impulsion lointaine et de la transmettre exactement à la matière. Le feu était égal, la pâte était riche, l'air était tempéré, tout était favorable. Et le miracle s'est accompli. La Foscarina prit entre ses doigts nus la tige de la coupe. « Si elle se cassait, dit Stelio, il faudrait lui élever un mausolée comme Finéron aux mânes de sa tasse brisée. Ah, l'amour des choses !» Un autre despote, Xerxès, vous a devancé, mon ami, en parant de collier un bel arbre. Elle avait sur les lèvres, où tombait la lisière du voile, un sourire à peine visible, mais continu. Et il connaissait ce sourire, pour en avoir souffert sur la rive de la Brenta, dans la campagne attristée par les statues. Des jardins, partout, ah. Autrefois c'était les plus beaux du monde, des paradis terrestres, comme les appelle Andrea Gallino, consacrés à la poésie, à la musique et à l'amour. Peut-être quelqu'un de ces vieux lauriers a-t-il entendu Aldo Manucci parler grec avec Navagero ou Madonna Gasparina soupirer sur les traces du comte de Collalto. Il suivait un chemin resserré entre les clôtures des jardins désolés. Au sommet des murs, dans les interstices des briques rougeâtres, on voyait trembler d'étranges herbes longues et raides comme des doigts. Les lauriers de bronze avaient leurs cimes dorées par le soleil couchant. L'air scintillait d'une innombrable poussière d'or, comme les aventurines. Doux et terrible sort que celui de Gaspara Stampa. Connaissez-vous ces rimes ?
Oui, je les ai vues un jour sur votre table. C'est un mélange de glace et de feu. Par instant, à travers le pétrarchisme du cardinal Bembo, sa passion mortelle jette quelques beaux cris. Ah, je sais d'elle un vers magnifique. Vivere ardendo e non sentire l'imale. Vivre dans la brûlure et ne pas sentir le mal. Vous rappelez-vous, Stelio, dit la Foscarina, avec cet inextinguible sourire qui lui donnait l'apparence d'une somnambule. Vous rappelez-vous le sonnet qui commence ainsi « Signore, io so che in me non so più viva, e vegornaic ancora in voi son mortal. » Seigneur, je sais qu'en moi-même je ne suis plus vivante, et je vois maintenant qu'en vous aussi je suis morte.
Ah non, Fosca, je n'en ai pas souvenir.
Vous rappelez-vous votre belle imagination sur la saison des feintes? Elle gisait dans la barque funèbre, vêtue d'or comme une dogaresse, et le cortège la conduisait à l'île de Murano, où un maître du feu devait l'enfermer dans une enveloppe de verre opalin, afin que, submergée au fond de la lagune, elle put au moins contempler les ondulations des algues. Vous rappelez-vous? Oui, c'était un soir de septembre. Le dernier soir de septembre, le soir de l'allégorie. Une grande lumière, c'est Frau. Vous étiez un peu enivré, vous parliez, vous parliez. Que de choses vous avez dites. Vous arriviez de la solitude et votre âme trop pleine débordait. Vous répandîtes sur votre compagnie un flot de poésie. Une barque passa, chargée de grenades. Je m'appelais Perdita, vous rappelez-vous? Elle-même, dans sa marche, sentait l'extrême légèreté de ses pas et qu'il y avait en elle quelque chose d'évanescent, comme si son corps eût été sur le point de se changer en une ombre. Le sentiment qu'elle avait de sa personne physique paraissait dépendre de ce verre qu'elle portait à la main, ne subsistait que dans cette inquiétude que lui donnait la fragilité de l'objet et la crainte de le laisser tomber à terre, tandis que sa main nue se refroidissait peu à peu et que les veines y prenaient la couleur de la frange marine qui courait autour de la coupe. Je m'appelais encore Perdita. Avez-vous dans l'esprit, Stelio, un autre sonnet de Gasparra qui commence ainsi « Lo verrei, purché amor dicesse come debbo seguirlo. » Et ce madrigal, « C'est un crédit placere al mio signore. » Ah, mais je ne vous savais pas si familière avec la malheureuse Anacia, mon ami. Eh bien, je vous dirai, j'avais à peine 14 ans lorsque je jouais dans une vieille tragédie romantique intitulée Gaspara Stampa. Je jouais le rôle de la protagoniste. Ce fut à Dolo où nous passâmes l'autre jour quand nous allions à Stra. Ce fut dans un petit théâtre de campagne, dans une espèce de baraque. Ce fut l'année qui précéda la mort de ma mère. Oh, je me rappelle bien. Je me rappelle certaines choses comme si elles étaient d'hier. Et 20 ans sont passés. Je me souviens du son qu'avait ma voix grêle encore quand je la forçais dans les tirades parce que, du fond des coulisses, quelqu'un me chuchotait de crier fort, toujours plus fort. Gaspara, on se désespérait, se torturait, délirait pour son cruel conte. Je ne connaissais pas, je ne comprenais pas toutes ces choses dans ma petite âme profanée, mais je ne sais quel instinct de douleur m'amenait à trouver les accents et les cris capables d'émouvoir cette foule misérable dont nous attendions le pain quotidien. 10 personnes affamées s'acharnaient sur moi comme sur un gagne-pain. Le besoin brutal coupait et arrachait toutes les fleurs de rêve qui naissaient de ma précocité tremblante. Époque de sanglots, de suffocation, d'effroi, de lassitude folle, de muette horreur. Ceux qui me martyrisaient ne savaient pas ce qu'ils faisaient, pauvres gens hébétés, par la misère et par le travail. Allez, Dieu leur pardonne et leur fasse paix. Seule ma mère, qui elle aussi, per amar molto e d'esser poco amata, visse morin felice. Seule ma mère avait pitié de ma peine et souffrait de mon supplice, et savait me prendre entre ses bras, calmer mon tremblement horrible, pleurer quand je pleurais, me consoler. Oh, bénie, bénie soit-elle. Sa voix s'altéra. Au fond d'elle-même, les yeux maternels se rouvrirent, cléments et fermes, infinis comme un horizon de paix. Dis-moi, toi, dis-moi ce que je dois faire. Guide-moi, instruis-moi, toi qui sais. Toute son âme ressentit l'étreinte de ses bras. Et du lointain des ans, la douleur reflua vers elle à plein bord, mais sans âpreté, devenue presque suave. Les souvenirs de la lutte et de la souffrance la baignaient comme d'une onde chaude, la soutenaient, la réconfortaient. Sur quelles enclumes n'avait-il pas été battu le fer de sa volonté? Dans quelle zone avait-il pas reçu sa trempe? Dure pour elle avait été l'épreuve et difficile la victoire, obtenue au prix d'un labeur tenace contre les forces brutales et hostiles. Elle avait été témoin des plus atroces misères, des plus sombres ruines. Elle avait connu les efforts héroïques, la pitié, l'horreur, la face de la mort. Je sais ce qu'est la faim, Stelio, et ce qu'est la tombée de la nuit quand le gîte est incertain, dit-elle avec douceur. Elle s'était arrêtée entre les deux murs et relevait sa voilette sur son front. Les yeux libres, elle regarda son ami. Il pâlit sous ce regard, tant fut soudain son émoi et rude son étonnement à la voir apparaître sous cet aspect inattendu. Il se trouva déconcerté comme par l'incohérence d'un rêve, incapable de relier cette extraordinaire apparition aux traces récentes de la vie, incapable d'appliquer le sens de ses paroles à cette même figure de femme qui lui souriait et dont les doigts nus tenaient encore le verre délicat. Pourtant, il avait bien entendu, et elle était là, cette femme, dans son beau manteau de zibeline, avec la douceur de ses beaux yeux qui s'allongeaient parmi les cils, comme embuée continuellement par une larme qui continuellement y monterait et s'y dissoudrait sans se répandre là, sur le sentier solitaire entre les deux murs. Et je sais encore autre chose. À parler ainsi, elle éprouvait un bien inaccoutumé. Cette humilité raffermissait son cœur comme l'acte de fierté le plus hardi. Jamais la conscience de sa domination et de sa gloire dans le monde n'avait exalté en face de l'homme qu'elle adorait. Mais à présent, la mémoire de cet obscur martyr, de cette pauvreté, de cette faim, créait dans son cœur un sentiment de supériorité réelle sur celui qu'elle croyait invincible. De même que, sur la rive de la Brenta, les paroles de Stelio lui avaient pour la première fois semblé vaines, de même à présent, elle se sentait pour la première fois plus forte en son expérience de la vie que cet homme à qui tous les bonheurs avaient souri depuis le berceau et que tourmentaient seulement les furies de son désir et les anxiétés de son ambition. Elle l'imagina aux prises avec le besoin vil, obligé au travail comme l'esclave, accablé sous le fardeau des difficultés journalières. Aurait-il trouvé alors l'énergie pour résister, la patience pour supporter? Il lui apparut débile et perdu dans les âpres tenailles de la nécessité, humilié, impuissant. Ce « Ah, pour toi, toutes les choses joyeuses et superbes, aussi longtemps que tu vivras, aussi longtemps que tu vivras !» Elle ne put soutenir la tristesse de cette image. Elle se hâta de la chasser avec un emportement de défense et de protection presque maternelle. Et par un geste involontaire, elle posa une main sur l'épaule de son amie. Dès qu'elle s'en aperçut, elle la retira. Puis elle l'y posa de nouveau. Elle sourit parce qu'elle savait ce qu'il ne devait jamais savoir, parce qu'elle avait vaincu ce qu'il n'aurait jamais pu vaincre. Elle réentendit en elle-même les paroles graves d'une promesse terrible. « Dis-moi que tu n'as pas peur de souffrir. Je crois ton âme capable de supporter toute la douleur du monde. » Ses paupières, semblables aux violettes, s'abaissèrent sur cet orgueil secret. Mais dans les lignes de son visage apparut une beauté infiniment subtile et complexe qui émanait d'une concordance nouvelle entre les forces intérieures, d'une mystérieuse orientation de la volonté affranchie. Dans l'ombre qui tombait des plis de la voilette relevée sur les sourcils, sa pâleur s'anima d'une vie inimitable. Moi, je n'ai pas peur de souffrir, dit-elle, répondant à celui qui avait parlé auprès de la rivière lointaine. Et sa main effleura la joue de son ami. Il se tut, enivrée, comme si elle lui avait donné à boire l'essence même de son cœur, exprimée comme une grappe dans ce calice. De toutes les formes naturelles qui les environnaient, dans la lumière diffuse, nul ne lui parut égaler en mystère et en beauté cette face humaine qui laissait entrevoir par-delà ses lignes une profondeur sacrée où, sans doute, quelque grande chose venait de s'accomplir en silence. Il tremblait, attendant qu'elle continuât. Ils marchèrent un bout de chemin, l'un à côté de l'autre, entre les deux murs. Humble était le chemin, sourd et mou sous leurs pieds, mais au-dessus pendaient les nuages radieux. Ils arrivèrent à un carrefour où s'élevait une maison de pauvres gens, presque en ruine. La Foscarina s'arrêta pour la regarder. Les contrevents vermoulus et disjoints étaient maintenant ouverts par un roseau mis en biais. Le soleil bas pénétrait dans la masure, frappait sur la muraille enfumée et permettait de voir les meubles. Une table, un banc, un berceau. « Vous rappelez-vous, Stelio, dit-elle, cette auberge où nous entrâmes à Dolo pour attendre le train ?»« L'auberge du Vampa, un grand feu brûlait sous le manteau de la cheminée. Les ustensiles de cuisine reluisaient contre les murs. Les tranches de polenta cuisaient sur le gris. » Il y a 20 ans, cette auberge était toute pareille, même feu, même ustensiles, même polenta. Ma mère et moi, nous y entrions après la représentation, et nous allions nous asseoir sur le banc devant une table. J'avais pleuré, j'avais hurlé, j'avais déliré. J'étais morte par le poison ou par le fer sur les planches. Je conservais dans les oreilles la résonance des vers, comme celle d'une voix qui n'eût pas été la mienne, et dans l'âme une volonté étrangère que je ne parvenais pas à chasser, comme d'une personne qui, luttant contre mon inertie, essaierait de faire encore ses pas et ses gestes. La simulation de la vie demeurait dans les muscles de ma face, qui, certains soirs, ne parvenait pas à se calmer. C'était déjà le masque, la sensation du masque vivant qui naissait. J'ouvrais les yeux démesurés. Un froid tenace demeurait dans les racines de mes cheveux. Je ne réussissais pas à recouvrer la pleine connaissance de moi-même et de ce qui arrivait autour de moi. L'odeur de la cuisine me donnait des hauts le cœur. Les mets qui étaient dans mon assiette me paraissait trop grossier, pesant comme les pierres, impossible à avaler. Cette répugnance me venait de je ne sais quoi, d'indiciblement délicat et précieux, que je sentais au fond de ma fatigue, d'une noblesse indistincte, que je sentais au fond de mon humiliation. Je ne sais pas dire, c'était peut-être l'obscure présence de cette force qui devait plus tard se développer en moi, de cette élection, de cette diversité dont m'avait marqué la nature. Et parfois, le sentiment de cette diversité devenait si profond qu'il me séparait presque de ma mère. Dieu me pardonne qu'il m'éloignait presque d'elle. Une grande solitude se faisait au-dedans de moi. Rien ne me touchait plus de tout ce qui m'entourait. Je demeurais seul avec ma destinée. Ma mère, qui était à mon côté, reculait pour moi dans un lointain infini. Ah, elle devait bientôt mourir et déjà se préparait à me quitter. Et cela, c'en était peut-être le présage. Elle me pressait de manger avec des paroles qu'elle seule savait dire. Je lui répondais « Attends, attends ». Je ne pouvais que boire. J'avais l'avidité de l'eau froide. Certaines fois, quand j'étais plus lasse et plus tremblante, je souriais longuement. Et elle-même, la chère femme, avec son cœur profond, n'arrivait pas à comprendre de quoi naissait mon sourire. heure sans égale, où il semble que soit rompue la prison du corps pour l'âme qui s'en va errante aux limites extrêmes de la vie. Que fut votre adolescence à vous, Stelio? Qui pourrait l'imaginer? Tous nous avons éprouvé le poids du sommeil qui soudain s'appesantit sur la chair après la fatigue ou après l'ivresse, lourd et rapide comme un coup de massue et qui nous anéantit. Mais il arrive aussi que, pendant la veille, le pouvoir du rêve s'empare de nous avec la même violence, nous saisit et nous maîtrise, et notre volonté n'a pas assez de force pour lui résister, et il semble que tout le tissu de notre existence se défasse, et qu'avec les mêmes fils, nos espérances en tissent un autre plus luisant et plus étrange. Ah! Il me revient à la mémoire quelques-unes des plus belles paroles que vous avez dites sur Venise ce soir-là, lorsque vous l'avez représentée avec des mains merveilleuses, attentive à composer ses lumières et ses ombres dans une continuelle œuvre de beauté. Vous seul savez dire ce qui est indicible. Là, sur ce banc, devant cette table rustique, dans l'auberge du Vampa, à Dolo, où l'autre jour le sort me remenait avec vous, j'eus les plus extraordinaires visions que le rêve ait jamais suscitées dans mon âme. Je vis ce qui est inoubliable. Je vis se superposer aux formes réelles qui m'environnaient, les figures qui naissaient de mon instinct et de ma pensée. Là, sous mes yeux fixes, qu'avait brûlé la lumière fumeuse et rouge du pétrole, la rampe improvisée, là commença de s'animer le monde de mes expressions. Les premières lignes de mon art se sont développées dans cet état d'angoisse, de lassitude, de fièvre, de répugnance, où ma sensibilité devenait pour ainsi dire plastique, à la façon de cette matière incandescente que tout à l'heure les verriers tenaient à l'extrémité de leur canne. Il y avait en elle une aspiration naturelle à être modelée, à recevoir un souffle, à remplir le creux d'une empreinte. Certains soirs, sur cette muraille que recouvraient les ustensiles de cuivre, je me voyais comme dans un miroir, en des attitudes de douleur et de fureur, le visage méconnaissable. Et pour échapper à l'hallucination, pour interrompre la fixité de mon regard, je battais rapidement des paupières. Et ma mère me répétait « Mange, ma fille, mange au moins ceci !» Mais qu'étaient le pain, le vin, la viande, les fruits, toutes ces choses pesantes, achetées avec l'argent durement gagné, en comparaison de ce que j'avais au-dedans de moi? Alors je lui répétais « Attends !» Et quand nous nous levions pour partir, j'emportais avec moi un grand morceau de pain. Il me plaisait de le manger le matin suivant dans la campagne, au pied d'un arbre ou au bord de la Brenta, assise sur une pierre ou sur l'herbe. Oh, ces statues! La Foscarina s'arrêta encore au bout d'un autre sentier bordé de murs qui menait à un pré-désert au Campo di San Bernardo, où était l'ancien couvent. On apercevait au fond le clocher de Santa Maria degli Angeli, sur lequel un beau nuage imitait une rose à l'extrémité d'une tige. Et l'herbe était molle, placide, verdoyante, comme dans le parc des Pisani à Stra. « Ces statues !» répéta l'actrice, le regard attentif comme si elles avaient été là, devant elle, en foule, et lui eussent barré le passage. Elles ne m'ont pas reconnu l'autre jour, mais moi je les ai bien reconnues, Stelio. Les heures lointaines, les campagnes humides et vaporeuses, les plantes dépouillées, les villas en ruine, le fleuve silencieux, les reliques des reines et des impératrices, les visières de cristal sur le visage fébrile, le labyrinthe sauvage, la poursuite vaine, la terreur et l'agonie, la pâleur splendide et terrible, le corps glacé sur les coussins de la voiture, les mains mortes, toute cette tristesse s'illuminèrent d'une lumière nouvelle dans l'esprit de l'aimé. Et il regarda la créature merveilleuse en palpitant de frayeur et de stupeur, comme s'il la voyait pour la première fois, et que ses traits, son pas, sa voix, ses vêtements eussent des significations multiples et extraordinaires, insaisissables pour lui, comme les éclairs dans leur rapidité et dans leur nombre. Elle était là, créature de chair périssable, assujettie aux tristes lois du temps. Et une masse démesurée de vie réelle et idéale pesait sur elle, se dilatait autour d'elle, battait selon le rythme de cette respiration même. Elle était parvenue à la limite de l'expérience humaine, la femme désespérée et nomade. Elle savait ce que lui-même ne pourrait jamais savoir. L'homme de joie sentit l'attraction de toute cette douleur accumulée, de toute cette humilité, de tout cet orgueil de tant de guerres, de tant de victoires. Il aurait voulu vivre cette vie. Il envia ce destin. Émerveillé, il considérait sur cette main nue les délicates veines violettes, aussi apparentes que si la peau ne les eût pas recouvertes, et les ongles fins qui brillaient autour de la tige hyaline. Il pensait à une goutte de sang qui circulait à travers cette substance, limitée par les contours communs et pourtant incommensurables comme l'univers. Il lui sembla qu'il n'y avait au monde qu'un seul temple, le corps humain. Il éprouva un anxieux désir d'arrêter cette femme, de se mettre devant elle, de l'examiner attentivement, d'en découvrir tous les aspects, de l'interroger sans fin. D'autres demandes lui montaient à l'esprit. « Jeune fille, ne parcourais-tu pas les grandes routes dans le chariot, chargé de décors, étendu sur une botte de feuillage, suivi par la troupe des histrions le long des vignes, et un vendangeur ne t'offrait-il pas une corbeille de raisins ?» L'homme qui le posséda pour la première fois, ne ressemble-t-il pas à un satyre et dans la terreur d'entendre du départ gronder sur la plaine le vent qui emportait au loin cette part de toi-même que tu chercheras toujours et ne retrouveras jamais? Combien de larmes t'avait-il fallu boire le jour où je t'entends, dit, pour qu'Antigone parlât en toi d'une voix si pure? As-tu vaincu les peuples l'un après l'autre comme on gagne les batailles pour conquérir un empire? Les reconnais-tu divers à leur odeur comme on reconnaît les fauves? Un peuple se rebella, te résista, et en le domptant, tu l'aimas plus que ceux qui t'adorèrent à ta première apparition. Un autre part de là l'océan, à qui tu révélas une manière de sentir inconnue, ne peut t'oublier, et t'envoie des messages pour que tu lui reviennes. Quelle beauté subite pourrais-je naître, verrais-je naître de ton amour et de ta douleur? Et là, sur ce pré solitaire de l'île oubliée, sous le clair ciel d'hiver, elle lui réapparaissait telle qu'elle lui était apparue en cette lointaine nuit dionysiaque parmi les louanges des poètes assis dans le cénacle. La même puissance de fécondation et de révélation émanait de la femme qui venait de dire en soulevant son voile « Je sais ce qu'est la faim ». C'était en mars, je me rappelle, continua la Foscarina doucement. Je sortais dans les champs de bonheur avec mon pain. Je marchais à l'aventure, je me proposais pour but les statues. J'allais de l'une à l'autre et je m'arrêtais devant elles comme si je leur eusse fait visite. Plusieurs me semblaient très belles et je m'essayais à imiter leurs gestes. Mais je restais plus longtemps en compagnie des mutilés, comme par un instinct de les consoler. Et le soir, sur la scène, en récitant mon rôle, je me rappelais quelqu'une d'entre elles, et j'avais un sentiment si profond de son éloignement, de sa solitude, dans la campagne tranquille, sous les étoiles, qui me semblait que je ne pouvais plus parler. Et la foule s'impatientait de ces pauses trop longues. Et parfois, quand je devais attendre que mon interlocuteur eût fini sa tirade, je prenais l'attitude de tel ou tel qui m'était plus familière, et je demeurais immobile comme si j'avais été de marbre moi aussi. J'avais déjà commencé à me sculpter moi-même. Elle sourit. La grâce de sa mélancolie surpassait la grâce du jour déclinant. J'en aimais une tendrement, une qui avait perdu les bras avec lesquels jadis elle soutenait sur sa tête une corbeille de fruits. Mais les mains étaient restées attachées à la corbeille et me faisaient peine. Cette statue s'élevait sur son piédestal dans un champ de lin. Près de là, il y avait un petit canal aux eaux stagnantes où le ciel reflété continuait l'azur des fleurs. Oh, quand je ferme les yeux, je revois le visage de pierre et le soleil qui se colore en passant à travers les tiges d'une comme à travers un cristal vert. Toujours depuis cette époque, au moment les plus chauds de mon art, sur la scène, apparaissent dans ma mémoire des visions de paysages et surtout lorsque par la seule force du silence, je réussis à communiquer un grand frisson à la foule qui me regarde. Le haut de ses joues s'était allumé un peu et comme le soleil oblique en l'investissant tirait des étincelles de la zibrine et de la coupe, son animation ressemblait à un accroissement de lumière. Oh oui, quel printemps que celui-là! Dans ma vie errante, ce fut alors que je vis pour la première fois un grand fleuve. Il m'apparut tout à coup, gonflé, rapide, entre deux rives sauvages, dans une plaine enflammée comme un champ de chaume, sous les rayons horizontaux du soleil qui en effleurait la limite, pareil à une roue de feu. Je compris alors ce qu'il y a de divin dans un grand fleuve qui traverse la terre. C'était l'Adige. Il descendait de Vérone, la ville de Juliette. Un trouble ambigu se cachait au fond de son âme pendant qu'elle évoquait ainsi la misère et la poésie de son adolescence. Elle était induite à continuer par une sorte de fascination. Et néanmoins, elle ne savait pas de quelle manière elle en était venue à ses confidences, alors qu'elle s'était préparée à entretenir son amie d'une autre jeunesse, non passée mais présente. Par quelle surprise de l'amour, après une soudaine tension de sa volonté, après un ferme propos d'affronter la vérité douloureuse, après un effort pour recueillir son énergie hors désarroi, était-elle arrivée à s'attarder dans la commémoration de jours si lointains et à recouvrir avec la virginale image d'elle-même cette autre image si différente. Nous entrâmes à Vérone un soir de mai par la porte du Paléo. Je suffoquais d'anxiété. Je serrais contre mon cœur le cahier où j'avais transcrit de ma main le rôle de Juliette, et je répétais en moi-même les paroles qu'elle prononce quand elle paraît pour la première fois. « Qui m'appelle? Me voici. Quelle est votre volonté ?» Mon imagination était bouleversée par une coïncidence étrange. Ce même jour, j'accomplissais ma 14e année, l'âge de Juliette. Le bavardage de la nourrice me résonnait dans les oreilles, et peu à peu, mon propre sort se confondait avec celui de la Véronèse. Au coin de toutes les rues, je croyais voir venir à ma rencontre un cortège qui accompagnerait un cercueil couvert de roses blanches. Et lorsque j'aperçus les tombeaux des Scaligères enfermés dans leurs grilles, je criai à ma mère « Mais c'est la tombe de Juliette !» Et j'éclatais en sanglots, et j'eus une envie désespérée d'aimer et de mourir. Oh, loin que trop tôt, je vis sans te connaître, et que je connus trop tard. Sa voix, qui répétait les immortelles paroles, pénétra le cœur de l'aimé comme une mélodie déchirante. Elle s'arrêta encore et répéta « Trop tard ». C'étaient les paroles atroces que l'aimé lui-même avait proférées, qu'elle-même avait redites dans le jardin nocturne où les étoiles cachées des jasmins embaumaient et où les fruits aussi embaumaient, comme dans les vergers des îles, alors que l'un et l'autre étaient sur le point de céder au désir cruel. « Il est trop tard, il est trop tard. » La femme, qui n'était plus jeune, là, sur cette bonne herbe, avait devant elle maintenant l'image ancienne d'elle-même et sa virginité palpitante sous la tunique de Juliette au premier rêve de son amour. Parvenue à la limite de son expérience, n'avait-elle pas conservé ce rêve intact, hors de l'atteinte des hommes et du temps? Mais à quoi bon? Si elle évoquait sa plus lointaine jeunesse morte, ce n'était que pour passer dessus et pour la fouler aux pieds, en menant l'aimée vers l'autre, vers celle qui vivait et qui attendait. Avec le sourire de sa peine inimitable, elle dit « Je fus Juliette. » Autour d'eux, l'air était si calme que la fumée des fournaises s'y attardait en taches immobiles. L'or tremblait partout comme dans les aventurines. Sur le clocher de Santa Maria degli Angeli, la nue s'empourprait vers les bords. L'eau était invisible, mais sa douceur passait sur la face des choses indiciblement. Un dimanche de mai, dans l'immense arène, dans l'amphithéâtre antique, sous le ciel ouvert, devant un peuple qui avait respiré parmi la légende d'amour et de mort, je fus Juliette. Nul frémissement des salles les plus vibrantes, nulle clameur, nul triomphe, ne valut jamais pour moi l'ivresse de cette heure unique. Réellement, lorsque j'entendis Roméo dire « Ah, elle apprend aux torches à brûler !» Réellement, je m'allumais, je me fis de flammes. Avec mes petites économies, j'avais acheté sur la place aux herbes, près de la fontaine de Madonna Verona, une grande botte de roses. Les roses furent mon seul ornement. Je les mêlais à mes paroles, à mes gestes, à toutes mes attitudes. J'en laissais tomber une au pied de Roméo quand nous nous rencontrâmes. Du balcon, j'en effeuillais une sur sa tête. Et à la fin, je les semais toutes sur son cadavre dans le tombeau. Le parfum, l'air et la lumière me ravissaient. Mes paroles coulaient avec une étrange facilité, presque involontaire, comme dans le délire. Et je les entendais accompagnées par le bourdonnement continu de mes veines. Je voyais le vaisseau profond de l'amphithéâtre, moitié au soleil, moitié à l'ombre, et dans la partie illuminée, je voyais comme un miroitement d'innombrables yeux. Le jour était aussi tranquille qu'aujourd'hui. Pas un souffle ne remuait les plis de ma robe, ni mes cheveux qui frissonnaient sur mon cou nu. Le ciel était très lointain, et pourtant il me semblait que de temps à autre, mes plus faibles paroles y résonnaient jusqu'à l'infini, comme des tonnerres, ou que son azur devenait si profond que j'en étais coloré comme d'une eau marine où je me serais noyé. Et à tout moment, mes yeux allaient vers les longues herbes qui se dressaient au sommet des murailles, et il me semblait que d'elles me venait je ne sais quel assentiment aux choses que je disais et faisais. Et quand je les vis onduler au premier souffle du vent qui se levait sur les collines, je sentis croître mon animation et la force de mon souffle. Oh, comme je parlais du rossignol et de l'alouette! Je les avais entendus mille fois dans les champs. Je connaissais toutes leurs mélodies, celles du bois, celles du pré, celles de la nue. Je les gardais dans mes oreilles, vivantes et sauvages. Avant de sortir de mes lèvres, chacune de mes paroles avait traversé toute la chaleur de mon sang. Il n'y avait pas de fibre en moi qui ne donnât un son à cette harmonie. Ah, la grâce, l'état de grâce. Chaque fois qu'il m'est donné d'atteindre au comble de mon art, je retrouve cet indicible abandon. Je fus Juliette. C'est le jour, cria ma terreur. Le vent passait dans mes cheveux. Je percevais l'extraordinaire silence où tombait ma lamentation. Il semblait que la foule était disparue sous terre. Elle restait muette sur la courbe des gradins, toute dans l'ombre maintenant. Là-bas, le sommet de la muraille flamboyait encore. Je disais la terreur du jour, mais en réalité, je sentais sur ma face déjà le masque de la nuit. Roméo était descendu. Nous étions morts déjà, entrés déjà dans les ténèbres. Vous vous rappelez ? Maintenant que tu es là, tu m'apparais comme un mort au fond d'un sépulcre, où mes yeux me trompent, où tu es bien pâle. Mais j'étais glacé tout en disant ces choses. Mes yeux cherchèrent la lueur au sommet de la muraille. Elle s'était éteinte. Le peuple s'agitait dans l'arène, demandait la mort. Il ne voulait plus écouter ni la mère, ni la nourrice, ni le moine. Le frémissement de son impatience accélérait intolérablement les coups de mon cœur. La tragédie se précipitait. Oh, j'ai le souvenir d'un grand ciel blanc comme les perles, et de cette rumeur marine qui s'apaisait à mon apparition, et de l'odeur de résine que répandait la torche, et des roses qui me recouvraient, flétries par ma fièvre, et d'un lointain son de cloche qui rapprochait le ciel, et de ce ciel qui perdait peu à peu sa lumière comme je perdais ma vie, et d'une étoile, de la première étoile, qui trembla dans mes yeux avec mes pleurs. Et quand je retombais sur le corps de Roméo, la foule hurla dans l'ombre avec tant de violence que j'en fus effrayé. Quelqu'un me releva, m'entraîna vers ce hurlement. On approcha la torche de mon visage en larmes. Elle crépitait fortement, elle sentait la résine, et elle était rougée, noire, flamme et fumée. Cette torche aussi, comme l'étoile, je ne l'oublierai jamais. Et moi, je devais certainement avoir la couleur de la mort. Ce fut ainsi, Stelio, que par un soir de mai, le peuple de Vérone put voir Juliette ressuscitée. Elle s'arrêta encore et ferma les paupières, comme prise de vertige. Mais ses lèvres douloureuses continuaient de sourire à son ami. Et ensuite, oh, le besoin d'aller n'importe où, de traverser l'espace, de respirer dans le vent. Ma mère me suivait en silence. Nous traversâmes un pont, nous cheminâmes le long de la Dige, puis nous traversâmes un autre pont, nous entrâmes dans une petite rue. Nous nous égarâmes dans des ruelles obscures, nous trouvâmes une place avec une église, et vite, vite, encore plus loin. Et de temps à autre, ma mère me demandait, « Mais où allons-nous ?» Je cherchais à l'aventure un couvent de capucins où était cachée la tombe de Juliette, puisque, à mon grand regret, on ne l'avait pas ensevelie dans l'un de ces beaux mausolées entourés par ces belles grilles. Mais je ne voulais pas le dire, je ne pouvais pas le dire. Ouvrir la bouche ou prononcer une parole, cela ne m'était pas moins impossible que de détacher une étoile du ciel. Ma voix s'était perdue avec la dernière syllabe de la mourante. Mes lèvres étaient restées scellées par un silence aussi invincible que la mort. Et tout mon corps me paraissait expirant, tantôt glacé, tantôt embrasé, tantôt, comment dirais-je, tel que si les seules jointures des os eussent été brûlantes et que le reste eût été de glace. Et où allons-nous ? Me demanda une seconde fois cette bonté infatigable. Ah, ce qui lui répondait en moi, c'était la dernière parole de Juliette. Nous étions de nouveau près du fleuve, sur la dige, à l'entrée d'un pont. Je crois que je m'ai mis à courir, car l'instant d'après, je me sentis saisir par les bras de ma mère. Et dans cette étreinte, je restais là, contre le parapet du pont, suffoqué par les sanglots. Jetons-nous en bas, ainsi embrassés, voulais-je dire, mais je ne pouvais pas. Le fleuve emportait avec lui la nuit et toutes ses étoiles. Et je sentis que le désir de disparaître n'était pas en moi seul. Ah, mère bénie! Elle devint très pâle. Toute son âme ressentait l'étreinte de ses bras, les baisers de ses lèvres, les larmes de cette tendresse, la profondeur de cette peine. Mais elle regarda son amie, et soudain un flot de sang vif se répandit sur ses joues et monta jusqu'à son front, comme suscité par une secrète pudeur. « Mais qu'est-ce que je vous dis là? Pourquoi vous ai-je raconté toutes ces choses ? On parle, sans savoir pourquoi. » Elle baissa les cils sur sa confusion. Au souvenir de cet effroi mystérieux qui avait précédé les signes de la puberté, au souvenir de ce douloureux amour maternel, l'instinct primitif de son sexe se réveillait en son sein stérile. Son avidité féminine, qui se révoltait contre le vœu héroïque de l'abnégation totale, se troubla étrangement, fut prête à recevoir l'illusion. Des racines même de sa substance monta une aspiration informe qu'elle n'osait pas regarder en face. La possibilité d'une récompense divine brilla sur la tristesse de sa renonciation nécessaire. Elle sentait son cœur trembler, mais elle était comme celui qui n'ose pas lever le regard vers un visage inconnu, parce qu'il ne sait pas s'il y va lire un arrêt de vie ou de mort. Elle craignait de voir tout à coup se dissoudre cette chose qui n'était pas une espérance et qui pourtant ressemblait à une espérance née de son âme et de sa chair par un phénomène si nouveau. Elle souffrit de la grande clarté qui allumait le ciel, et de ce ciel par où elle passait, et de ses pas qu'elle était obligée de faire, et même de la présence de son ami. Elle songea à la langueur de l'assoupissement, au sommeil qui s'attarde vers l'aube, quand la volonté voilée guide légèrement le rêve heureux. Elle désira la solitude, le repos, la chambre écartée et close, l'ombre des courtines pesantes. Et brusquement, avec une anxiété impétueuse qui surgit de cette souffrance, comme pour fixer par un acte mental un fantôme sur le point de s'évanouir, elle ébaucha ces paroles qui montèrent jusqu'à ses lèvres, mais ne les remuèrent point. « Oh, un fils de toi !» Elle se tourna vers son amie et le regarda au fond des prunelles, toute tremblante. Sa pensée secrète flottait dans son regard, comme une imploration et comme une désespérance. Elle parut chercher en lui, avec angoisse, un signe non révélé, un aspect inconnu à un autre homme. À voix basse, elle l'appela « Stelio ». Et sa voix était si changée qu'il tressaillit intérieurement et se pencha vers elle comme pour lui porter secours. « Mon ami, mon ami !»